de Pluton à la planète des Raéliens,
des menaces nucléaires aux menaces référendaires,
toute l'actualité,
ou presque,
dans Carrément Méchant.
Yay. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce, oh là là, 13e numéro de Carrément Méchant. On espère qu'il ne sera pas maudit. Salut Émilie.
Salut Yann, comment vas-tu ?
Eh bien écoute, je suis ravi d'être de retour en Suisse, dans le confortable siège qui est devant mon ordinateur, devant mon micro habituel, et je pense que tous les auditeurs en sont tout aussi ravis.
Je n'en doute pas, c'est notre premier numéro entièrement suisse depuis bien quelques semaines, quelques mois même.
En termes de localisation tout du moins.
Voilà, absolument, nous sommes donc tous les deux à la maison, reposés dans notre fief, pas dans la même.
Oui, oui, non, parce que ça, faisait, ça portait un peu à confusion, nous sommes tous les deux à la maison, c'était un petit peu, oui, on a acheté un chalet en plein milieu de Zermatt, il faut le dire, pour enregistrer l'émission, ça nous coûte très cher.
On a encore les moyens.
Voilà.
Mais qui sait, un jour peut-être, voilà.
Exactement. Et donc, on va faire le tour de l'actualité internationale, puis de l'actualité suisse qui nous a marqué ces trois dernières semaines. Et alors, figure-toi, je vais commencer. Et je vais commencer par de la France, parce que je suis comme ça.
Mais quelle surprise !
Je ne vais pas faire que
non,
ça aujourd'hui.
Non mais j'avoue, ça faisait longtemps que tu n'en avais pas parlé la dernière fois, donc je t'accorde tout à fait le droit de nous parler un peu des Français. Et puis cette semaine, Yann, tu vas nous parler d'humour.
Exactement.
Pour changer, peut-être que tu seras drôle.
Eh ben écoute, je vais, comme chaque semaine, m'y atteler en tout cas. Parmi les nombreuses traditions annuelles de l'entre-soi politico-journalistique français, je dois admettre que le prix de l'humour politique m'a toujours plu. C'est mieux que les perles du bac, car les déclarations que ce prix honore sortent de la bouche de gens qui coûtent aux contribuables bien plus cher qu'un lycéen moyen. Chaque année, donc, le Press Club de France distingue les déclarations politiques les plus drôles, les plus absurdes ou les plus incroyables. Pour commencer, de nombreux prix de consolation ont été décernés cette année. Tout d'abord, le président, en titre, François Hollande.
Lui, il en a une belle série.
Pour son année, mais alors prolifique, faite de « il n'y a rien de plus terrible pour un soldat déjà anonyme que de mourir inconnu ». Ou encore, je demande aux Français de ne pas aller dans les zones à risque parce que c'est dangereux.
Il est bien ce garçon. Moi j'ai bien aimé, je crois que c'était un titre, je suis pas sûre que ce soit lui qui ait dit, mais c'est un titre du Monde.fr pour son discours du 14 juillet qui disait « François Hollande se pose en défenseur de la nation ». Ce qui est assez drôle en lui-même.
Il a aussi déclaré « Il y a ceux qui n'attendent plus rien, je fais en sorte de leur apporter ce qu'ils attendent ». Ce qui, là encore une fois, est un petit peu pessimiste, j'ai l'impression, mais enfin bref. L'ancien Premier ministre François Fillon a lui aussi eu droit à un prix spécial grâce à « Avant de juger les propositions d'Emmanuel Macron, je vais attendre qu'elles soient abandonnées ». Ce qui là aussi fait sens, hein, évidemment.
Oui, oui.
On sent le côté député de l'opposition farouche chez François Fillon.
Et le sens de la rhétorique.
Et le sens, évidemment, de la rhétorique, le sens de l'à-propos. Le député Patrick Menucci, aux prises avec un jeune Noël Guérini ayant trempé dans de nombreuses affaires, a gagné le prix du public avec « Guérini dit qu'il est ni de droite ni de gauche, alors il est forcément du milieu ».
C'est vrai, oui, oui.
Belle utilisation du vocabulaire, monsieur Guérini, effectivement.
Lui, il n'a pas le prix de rhétorique, du coup.
Le public a eu le droit, effectivement, de primer quelqu'un, et je pense que ce prix-là a été bien attribué.
Absolument.
Enfin, le non moins célèbre Dodo La Saumure, proxénète belge de son état, a quant à lui eu droit au prix parapolitique, avec, certes, DSK ternit un peu ma réputation. Ce qui, comment dire, est peut-être,
Les paralympiques de l'humour. Hein.
Oui, voilà, pour le décrire lui, c'est effectivement ça. Toutefois, le grand gagnant du prix de l'humour politique 2015 n'est autre que le sémillant Nicolas Sarkozy, président du parti
fameux.
Les Républicains,
oui.
Qui, fidèle à sa tradition, nous a gratifié d'un « pour désespérer de François Bayrou, encore faudrait-il que j'aie un jour placé de l'espoir en lui ». En politique comme en humour, il n'y a pas à dire, Sarkozy reste toujours égal à lui-même, une sacrée teigne.
J'avoue.
Et alors, fidèle à ta tradition...
Fidèle à ma tradition, absolument. C'est un numéro où nous sommes également fidèles à nous-mêmes.
Oui.
Je vais vous amener en Iran. Grosse surprise, vous n'avez certainement rien entendu à propos de l'Iran.
Mais non.
Mais on s'est dit quand même que, carrément méchant, on se devait de vous informer sur les gros titres de cette semaine.
Mais oui.
Et donc, entre un accord trouvé avec l'Iran, un accord trouvé avec la Grèce, il ne manque plus qu'un accord pour régler la situation du Moyen-Orient une bonne fois pour toutes. Mm-hmm. Et tout irait mieux dans le meilleur des mondes. Ce serait définitivement la semaine la plus productive de l'histoire du 21e siècle.
Bon, le conflit israélo-palestinien, on fera ça la semaine prochaine. On n'est qu'en été, les mecs. On se détend.
Oui, c'est les vacances.
On se calme.
Mais j'avais envie de vous parler un peu plus du deal iranien, évidemment, qui propulse définitivement M. Barack Obama au rang de président le plus badass de l'histoire. C'est le seul mec dont on commence à se dire qu'il a reçu son prix Nobel de la paix en avance. Enfin, on verra bien comment l'accord sera implémenté pour savoir s'il l'a mérité ou non. Mais en tout cas, les chefs d'État du monde entier se sont réjouis de l'accord sur le nucléaire, qui, je vous le rappelle, limite le programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran et le soumet au contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique en échange d'une levée progressive des sanctions financières et économiques qui paralysent le pays. Ouais. Donc l'adjectif qui est revenu le plus souvent à propos de cet accord est « historique ». La plupart des commentaires parlent du coup d'un accord historique, d'un événement historique, etc. Et le président israélien Benjamin Netanyahou parle de son côté d'une erreur historique. Mais bon, lui, il est jamais content.
Non.
On relevera tout de même que pour augmenter sa popularité, ou alors pour une autre raison obscure qu'on ne comprend pas très bien, Netanyahou a profité de l'occasion pour lancer un nouveau feed Twitter en farsi, qui est donc le perso. Nul doute que les Iraniens apprécieront désormais de se faire insulter dans leur langue maternelle.
Il paraît qu'en Netanyahou, on va sur ce compte-là que merde à celui qui le lira dans la langue farsie, juste justement pour que ça puisse que les toucher eux.
Et un autre qui n'était pas très content, c'était Marco Rubio, le candidat républicain au présidentiel, et disons un petit crétin notoire qui a lancé dans la foulée sur sa page internet une section qui s'appelle « Say no to Iran deal », donc « Dites non à l'accord sur l'Iran », sur lequel vous pouvez presser un gros bouton rouge sur lequel il est marqué « Non !» avec un point d'exclamation.
Ce qui en termes d'utilisateur design d'ailleurs est très bizarre parce que tu valides un formulaire en cliquant sur « Non ».
Voilà. Et une fois que vous aurez pressé sur « Non », eh bien ça ne changera rien, mais vous vous serez exprimé et vous vous sentirez mieux.
Alors que tu peux ouvrir la fenêtre et faire « Non !»
Voilà. Oui, ça marche.
C'est aussi,
aussi
simple que ça finalement.
Ça marche aussi et puis les effets seront les mêmes, voire ce sera peut-être plus efficace par votre fenêtre. Mais du coup, donc, dans le reste du monde, je vous le disais, les réactions étaient presque unanimement positives, avec des gens qui d'habitude ne sont pas très expressifs, qui se sont laissés aller. Vladimir Poutine, le président le moins expansif de la planète, a même parlé du fait qu'il avait poussé un soupir de soulagement lors de la conclusion du deal, ce qui veut dire que c'est effectivement un événement historique. Et enfin, une autre réaction qui a été moins relayée par les médias, de façon surprenante, c'était celle de Bachar el-Assad. Oui, il est toujours vivant, il est toujours là. Et il a exprimé, depuis Damas, oui, il y avait certainement un peu trop de joie dans ce oui. Alors,
oui. C'était assez bizarre, je dois admettre.
Je m'excuse, c'était uniquement dans le...
Bachar, Bachar,
voilà,
Bachar.
On se calme. Hein. Donc Bachar el-Assad s'est exprimé depuis Damas au sujet de sa plus grande satisfaction sur l'accord du nucléaire, qui permettra à Téhéran, son plus fidèle allié, d'augmenter encore le soutien qu'il accorde au régime syrien. Non seulement en termes d'armes, mais en termes de pétrole et en termes de combattants. Mais bon, ça, on en parle un peu moins, puisque c'est un accord historique qui va entraîner une nouvelle phase dans l'histoire de l'humanité, à peu de choses près. Et puis ce qui est rigolo, encore une fois, c'est que, donc depuis cet accord, la couverture médiatique sur l'Iran a changé vraiment en deux jours, du tout au tout. On est passé de méchants types en turban, qui voulait balancer des bombes nucléaires sur le monde entier, à un peuple qui est enfin libéré du fardeau des sanctions injustes mises en place par... par nous-mêmes. Désolée.
Mais quel dommage.
Voilà. Mais enfin bon, il faut savoir, encore une fois, quelque chose dont on parle un peu moins également, c'est que le deal n'est pas forcément la promesse d'un afflux d'argent et d'emplois dans l'économie iranienne. Il faut encore voir comment il sera implémenté, si le gouvernement iranien va respecter ses promesses. Et finalement, pour le gouvernement iranien, c'était un peu se tirer une balle dans le pied, puisqu'ils viennent de perdre leur excuse favorite pour justifier tous les problèmes du pays, qu'on remettait constamment sur les épaules des sanctions économiques. Donc nous allons voir comment les choses vont se passer dans le futur.
Mais c'est bien, ils pourront aller contre leur gouvernement, comme nous on le fait
depuis
des
années. Voilà, mais ils vont devoir soit trouver un nouveau bouc émissaire, soit pour changer, éventuellement commencer à délivrer des promesses à leurs citoyens.
C'est intéressant, effectivement. Écoute, on va aller complètement ailleurs, on va partir dans les...
Repartir en France.
En quelque sorte, tu vas voir que c'est un peu plus compliqué que ça. On va parler d'un Français, mais on va pas nécessairement repartir en France.
Très bien.
Alors, déjà, une première question pour introduire un petit peu mon sujet. Chers amis auditeurs, est-ce que vous connaissez Dieudonné. Si,
ah oui.
Si ce n'est pas le cas pour nos auditeurs, pour toi oui, mais pour nos auditeurs, et pour faire simple, disons que c'est le français passé d'humoriste très moyen à youtubeur fascisant en une dizaine d'années environ. Il est devenu plus ou moins pote avec le conspirationniste antisémite Alain Soral, a fait figurer à plusieurs reprises des historiens négationnistes dans ses spectacles.
Et c'est un grand ami de Mahmoud Ahmadinejad.
Aussi, quant au délicieux Jean-Marie Le Pen, qu'on ne présente plus, il est tout simplement parrain de sa fille. Bref, vous l'aurez remarqué, le cercle d'amis et de connaissances entourant Dieudonné est un portrait on ne peut plus croquignolesque d'une France extrême qui a su se rendre un peu mainstream. Des maîtres dans ce que les journalistes aiment appeler les dérapages, alors qu'il s'agit bel et bien d'un style de conduite à part entière. Figurez-vous que depuis quelques jours à peine, on a appris que Dieudonné, qui faisait profil bas depuis la grosse affaire de l'interdiction de son spectacle, a un nouvel ami. Est-ce que vous avez une idée ?
Sur Facebook ?
Hein ? Je vais vous aider, il fait partie du monde de la croyance. Non.
Oui, bah, bon, moi, j'ai la réponse sous le nez. Alors c'est un
t'as la réponse sur le nez, mais non, mais voilà, non, personne.
Mais c'est vrai que du coup, il pourrait gagner le prix du mec qui a le cercle d'amis le plus étrange.
Oui. Alors j'ai bien fait d'utiliser croyance plutôt que religion pour décrire le nouveau poteau de Dieudo. Il s'agit, sans déconner, de l'incroyable Raël, leader du mouvement raélien.
À ne pas confondre avec Raphaël.
Exactement, qui est par ailleurs considéré dans la plupart des pays civilisés comme une bonne grosse secte, le mouvement raélien. Alors, premier détail amusant sur la personne, 30 secondes de recherche sur internet nous permettent d'apprendre que Raël, de son vrai nom Claude Vorillon, est né en 1946 à Vichy.
Non, ça fait vieux là.
Vichy, oui. Merde. Vu les amitiés et les opinions affichées par Dieudonné, voilà véritablement un cadeau tombé du ciel. Mais ce n'est pas tout. Un deuxième détail amusant se cache dans la bio de notre ami Raël. Avant de prendre son pseudonyme tout moche, lui, Claude Vorillon, se faisait appeler Claude Cellier, avec un C. Sous cet autre nom, il a été journaliste sportif et chanteur spécialisé dans l'imitation de Jacques Brel. Comme quoi, il n'y a pas qu'un seul chemin pour devenir prophète.
Absolument. Et comme quoi, tout espoir n'est pas perdu pour vous.
C'est vrai.
On peut toujours se reconvertir.
Alors, on se demande à partir de là, et Dieudonné dans tout ça ? Oh, trois fois rien. Raël a simplement décidé de le nommer guide honoraire de l'humanité, le 83e guide honoraire de l'humanité du mouvement raélien, sous le prétexte que celui-ci a, je cite, mené un combat sans relâche à défendre la liberté d'expression en France.
Oui. Guide honoraire, ça veut dire assistant de Raël.
Ça veut dire qu'il a été nommé par lui, et tu vas voir que justement le truc est utilisé de manière un petit peu large. Puisque si on sait que Dieudonné et Raël sont proches, le second était venu dans le théâtre du premier il y a de cela 6 ans, le mouvement raélien a parfois tendance à confier le titre de guide honoraire sans trop consulter les récipiendaires. Petit florilège en citant directement raelanews.org, son site internet. Alors il y a eu Michael Jackson, guide honoraire en 1992, pour ses chansons en faveur de la paix et antiraciste, en particulier Heal the World, Who's Bad et Black or White. Donc je cite là carrément le site, hein, attention, je veux qu'on soit précis là-dessus. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de Raël et de ses petits sbires. Bill Gates, guide honoraire depuis le 26 juillet 2004, fondateur de Microsoft, l'un des hommes les plus riches du monde et philanthrope mondial.
Est-ce qu'on est guide honoraire toute notre vie ou bien ?
Apparemment, Bill Gates s'est arrangé en 2004 pour donner encore 3 milliards de dollars aux organisations de bienfaisance afin de promouvoir une plus grande égalité de la santé et de l'apprentissage dans le monde. En le déclarant guide honoraire, Raël a dit que Bill Gates est beaucoup plus qu'un saint, est beaucoup plus un saint que Mère Teresa ne l'était, puisqu'il ne dépense pas 90% des fonds donnés à essayer de convertir ceux qui l'aident à une croyance religieuse autre que la leur, comme elle le faisait. Dit Raël, qui est lui-même prophète de sa propre secte. Michel Houellebecq, nommé guide honoraire le 7 octobre 2005.
Pour 1.
Avoir écrit le roman La possibilité d'une île qui évoque un mouvement religieux inspiré par le mouvement raélien. 2. Pour l'intégrité et l'honnêteté exemplaire, c'est toujours Raël qui parle, à discuter du mouvement raélien en public. Et 3. Pour avoir provoqué un extraordinaire intérêt mondial des médias dans le raélisme. Apparemment, on dit raélisme.
Non.
Michel Houellebecq a dit qu'il est fier de son titre de guide honoraire.
Non.
D'autant plus qu'il a été le premier, entre parenthèses, à l'époque, et seul citoyen français à se recevoir ce titre. Enfin.
Mais quel honneur!
Enfin, Edward Snowden, ancien agent de renseignement des États-Unis, a reçu le titre de guide honoraire de l'humanité le 15 juillet 2013, donc par reçu, c'est donc qu'il ne l'a pas du tout informé, pour le grand service qu'il a rendu à l'humanité en révélant des détails sur les programmes mondiaux de surveillance des États-Unis. Il y a une citation de Raël directement là entre guillemets. Snowden est un vrai héros et le monde a besoin de milliers d'autres héros comme lui pour avoir un avenir pacifique et libre dans lequel les gens pourront être protégés contre le cancer des gouvernements orwelliens tout-puissants. A donc déclaré Raël. Voilà, comme ça vous savez ce que sont les guides honoraires chez Raël, c'est tout et n'importe quoi, mais souvent n'importe quoi.
Vous pourrez répondre à la blague, quel est le lien entre Michael Jackson, Michel Houellebecq et Edward Snowden?
Raël.
Voilà, Raël.
C'est merveilleux. Eh ben écoute, Émilie, on passe d'une religion à la science, enfin d'une pseudo-religion, d'une voilà. secte surtout, à la science, la vraie, la dure, celle qui va dans l'espace.
Absolument, celle qui nous emmène loin de cette planète oui. pleine de méchants monsieur. Oh. Et donc, vous l'avez certainement vu encore une fois dans l'actualité, mais nous avons des photos de Pluton. La sonde américaine New Horizons a frôlé Pluton, ce qui en langage astronomique veut dire qu'elle est passée à quelques petits 700 000 km de Pluton. Et si vous ne vous rappelez plus très bien si Pluton est une planète ou non, eh bien je vais vous rafraîchir la mémoire. Depuis 2006, l'Union Astronomique Internationale a effectué un vote lors d'un congrès à Prague sur Pluton, faisant régresser le statut de celle-ci de planète à planète naine. Puisque Pluton ne remplissait pas la troisième condition de la définition, enfin de la nouvelle définition de planète élaborée par l'Union Astronomique.
Exactement.
Qui est que la planète ne doit pas avoir de voisins proche aux dimensions similaires, une condition que Pluton ne remplit pas. Mm. Et donc, quand la sonde New Horizons est partie de Floride en 2005, elle se dirigeait vers une planète. Les membres de l'équipe ont dû la voir un peu mauvaise quand une année après, l'Union Astronomique Internationale leur a dit « Ouais, en fait, les mecs, c'est plus une planète. Mm. » Mais bon, on peut encore appeler Pluton une planète naine. Ce qui est un peu péjoratif, mais enfin, on va pas chipoter sur les mots. Ce qui est assez incroyable dans cette nouvelle, c'est quand on pense à la distance qui nous sépare de Pluton. Dans une vidéo publiée par la NASA, sur YouTube, on apprend qu'à l'échelle, si la Terre était un ballon de basket, Pluton serait de la taille d'une balle de golf, et cette balle de golf serait située à environ 80 km du ballon de basket, soit la distance de Lausanne à Neuchâtel, ou pour ceux qui ne sont pas familiers avec le canton de Vaud, de Paris à Chartres. Et c'est une distance que la sonde New Horizons a mis 9 ans à parcourir. Et donc, ayant quitté la Terre en 2005, la New Horizons avait pour objectif d'envoyer des photos de Pluton et ensuite de continuer son voyage vers les limites du système solaire. Ça, vous l'avez certainement déjà entendu. Ce qu'on vous raconte moins, c'est la quantité d'objets hétéroclites que la sonde transportait à son bord. Petit fleurilège, deux pièces de monnaie, l'une frappée aux armoiries du Maryland, l'autre frappée aux armoiries de la Floride. Un morceau du vaisseau Spaceship One, qui était la première navette privée à envoyer des humains dans l'espace en 2004. On suppose qu'ils ne savaient plus quoi en faire sur Terre, puisque personne ne s'y intéressait. Un timbre américain de 1991 représentant Pluton et portant les mots Pluto not yet explored, donc Pluton pas encore exploré. Pourquoi pas ? Deux CD-ROM, en espérant que les aliens, s'il y en a, possèdent des lecteurs CD.
C'est ça.
L'un comportant une liste de 434 000 noms de gens qui s'étaient inscrits en 2004 pour que leur nom soit sur un CD, qui soit dans une sonde, qui aille dans l'espace, certes. L'autre CD comportant des photos des membres de l'équipe de New Horizons, on ne sait pas dans quel appareil ils étaient à ce moment-là. Et surtout, last but not least, les cendres de Clyde Tombaugh, qui était l'astronome américain qui avait découvert Pluton en 1930, et on est certain qu'il est ravi d'être du voyage. Enfin bon, donc en gros, vous avez une sonde qui est partie à des milliards de kilomètres de la Terre et qui transporte pas mal de bordel avec elle. Mais enfin, c'est assez cool. Et on se réjouit de voir plus de photos qui vont arriver de ce voyage.
Exactement, et pour le coup, ça a effectivement un côté assez ironique que, comment dire, il y a une plaque marquée Not Yet Explored, justement au moment où on la considère plus trop comme une planète. Quel dommage.
Et puis on va quitter l'espace et on va revenir dans des contrées un peu plus familières. On va vous ramener en Suisse pour vous tenir quand même un peu en courant de ce qu'il se passe dans ce merveilleux pays. Alors Yann, tu vas nous parler de notre parti suisse préféré, notre parti politique préféré qui est l'UDC.
Mais oui.
Qui, comme leur nom ne l'indique pas, ne sont pas au centre mais à droite.
Alors, ça y est, la récolte de signatures est en route pour la prochaine initiative populaire de l'UDC, le parti qui a gagné en février 2014 son vote sur l'immigration de masse, mettant de facto en péril les accords bilatéraux entre Suisse et Europe. Tout comme lors de leur victoire de l'initiative pour l'interdiction de construction de minarets en 2009, les initiatives UDC passant la rampe du vote populaire déclenchent chez les éditorialistes et les ministres de nombreux pays voisins une colère sans nom contre la démocratie directe à la Suisse, jugée par eux comme un jouet dangereux confié à un peuple d'irresponsables. Histoire de les aider à se consterner avec un peu d'avance, je leur présente donc l'objet de la prochaine initiative UDC. Son nom, le droit suisse au lieu de juge étranger, entre parenthèses, initiative pour l'autodétermination. Son but, il s'agit d'affirmer la primauté du droit suisse sur le droit supranational. Aujourd'hui, si quelqu'un est mécontent d'un jugement rendu par le tribunal fédéral, c'est-à-dire par la plus haute instance suisse, il peut encore faire recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Demain, si l'initiative est acceptée, la Suisse sera en mesure de dénoncer des éléments de droit européen, comme la Convention européenne des droits de l'homme, afin de faire primer son droit national, afin de ne plus se fier aux jugements de tribunaux étrangers, ou encore de mieux appliquer des initiatives votées par le peuple, et quitte à contrevenir à certains éléments du droit international précédemment ratifié par la Suisse.
Et d'ailleurs, il propose également de remplacer les mots droit international par droit étranger.
Oui, en plus, mais ça c'est juste de la sémantique histoire de gratter un petit peu les gens. Des initiatives, comme le hasard fait bien les choses, qui sont pour la vaste majorité proposées par l'UDC, bien évidemment.
Mais quelle surprise !
Donc il s'agit un petit peu d'une porte ouverte pour la suite. L'UDC concède que certaines règles impératives du droit international pourront limiter la législation suisse, même si, je cite, « les droits humains et fondamentaux ne seront plus défendus que de manière autonome par la Suisse ». Et où on en est ?
Puisque les Suisses sont meilleurs que tout le monde, c'est bien connu.
Exactement, et que peut faire la Cour européenne des droits de l'homme pour défendre les droits de l'homme ? Je me demande bien, on se demande à quoi est-ce qu'ils servent ces gens-là.
D'ailleurs, ça s'appelle les droits de l'homme et non pas les droits des Suisses.
Exactement,
c'est bien là tout le problème.
Schwitz über alles, c'est évident, je veux dire, à la lecture en tout cas de cette initiative. Alors, où on en est en ce moment dans le processus technique de votation ? Eh bien, en ce moment, c'est l'étape de la récolte des signatures. Elle se passe d'ailleurs très bien, puisque dans ton canton, dans le canton de Vaud, Émilie, en Suisse romande, donc francophone, là où les initiatives UDC se prennent généralement un râteau, leur antenne cantonale a déjà récupéré plus de 5000 signatures,
oula,
soit plus que ce qui lui était demandé d'ici l'automne 2016. Autant dire que c'est bien parti. Voilà,
Mes compatriotes se sont un peu comportés n'importe comment en mon absence.
Écoute, il y a une certaine inquiétude par rapport à ça et je pense que toute la situation européenne, avec notamment la crise de l'eurozone, n'aide pas à renforcer. Même si pour le coup, c'est des considérations qui n'ont rien à voir. Toi, tu m'avais raconté, Émilie, il y a deux jours, il me semble, enfin, on s'était vu il y a deux ou trois jours, tu m'avais raconté cette histoire d'un Suisse qui râlait et qui disait que la Suisse devait sortir de l'Europe.
Non, c'était un type qui râlait à la gare de Lausanne.
Ah non, que la Grèce devait sortir de l'Europe.
Qui se réjouissait que la Grèce sorte de l'Europe, et puis parce qu'ils volaient notre argent, et ils ne semblaient pas être au courant que la Suisse n'était pas dans l'Union Européenne.
Et n'est donc pas dans les mécanismes de stabilité et tout le bordel.
Voilà,
donc c'est un petit peu pitoyable.
C'est un peu pitoyable, ça va faire une très jolie transition.
Merci.
À propos d'une vidéo du collectif, enfin, disons d'une vidéo qui se targue de représenter le collectif Anonymous. Anonymous Suisse, oui, ça existe, s'attaque à la municipalité de Lausanne. Lausanne, qui est le chef-lieu du canton de Vaud, qui, comme Yann vous l'a rappelé,
oui,
est un canton francophone,
oui,
de Suisse,
oui,
et accessoirement le mien.
Il faut savoir qu'il touche la France, premièrement, et deuxièmement, qu'il est juste après le canton de Genève.
Voilà, au bord du lac Léman.
Léman, exact.
Et donc Anonymous s'attaque à la municipalité de Lausanne. Oui, vous avez bien entendu, peut-être que bientôt on entendra Anonymous s'attaque à la Tour de Paix, où Daesh menace la chaux sur Cossonay dans une vidéo. Mais enfin bon, quand on vous parle de glocalisation, c'est exactement ce genre de phénomène auquel on fait référence. Donc, un type se targuant de faire partie des Anonymous dans une vidéo respectant plus ou moins les codes du collectif a menacé la municipalité de Lausanne. Alors ça commence comme toutes les vidéos Anonymous, générique à la musique héroïque, logo, personnage avec un masque de Guy Fawkes en sweater noir et à la voix modifiée par ordinateur. Mais tout logiciel de modification vocale qu'il utilise, il n'arrive pas à masquer un léger accent vaudois. Ce qui est assez rigolo. Et donc
on vous retrouvera dans le carnot.
Absolument, faites gaffe les gars. Le discours qui s'ensuit identifie le collectif comme auteur de la vidéo et désigne sa cible, donc la municipalité de Lausanne, qui l'enjoint à respecter les plaintes des habitants du quartier de la Sala,
mais...
qui est un quartier au nord de la ville, dans lequel la construction d'une tour d'habitation avait provoqué des plaintes quant au bruit et aux vibrations créées par les travaux. Oui, Anonymous s'intéresse à des problèmes essentiels.
Le quartier.
Et donc... Sans quoi, le groupe va mettre, je cite, « mettre hors service tous les services informatiques de la ville le 25 juillet à minuit ».
Alors, je t'explique. En fait, c'est Georges qui est mécontent. Alors, c'est Georges, il doit avoir 22 ans. Il est mécontent de la construction du truc parce qu'il doit avoir une fibre écologique.
Et... Georges a une connexion Internet.
Il a tout à fait le droit. Voilà, il a juste le software pour pouvoir piloter une petite attaque DNS et il fait sa petite vidéo avec son accent vaudain. Non, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux.
Non, c'est merveilleux. Et donc,
c'est de l'activisme de quartier, c'est parfait.
La vidéo se termine par le terrifiant slogan « Respectez les hommes, respectez les locataires. Anonymous Suisse. » Voilà, vous avouerez qu'on a connu plus impressionnant comme slogan, mais enfin, il faut pas trop nous en demander. On est Suisse, on est toujours un peu dans la demi-mesure. Et on se réjouit que le réseau global adopte ce motto. Enfin, Anonymous International, syndicat de défense des locataires, enfin, QG à la Sala à Lausanne, c'est merveilleux. Ce qui est rigolo, c'est que la ville de Lausanne a quand même pris la menace au sérieux.
Mais non !
Et a pris des mesures, ils ont annoncé publiquement avoir pris des mesures de défense et de renforcement de leur système informatique pour le 25 juillet, au cas où.
Mais pas avant, hein.
Pas avant.
Non, mais c'est drôle, parce que regarde, si tu regardes la moyenne d'âge en Suisse, tu vas te dire que peut-être il y aura bientôt Anonymous Suisse retraité.
Oui.
Avec un mec avec un béret, enfin ça va être génial.
On vous mettra la vidéo sur notre page internet et vous pourrez aller rigoler et écouter à quoi ressemble un accent vaudois modifié par ordinateur.
Oui, fantastique. Et ben écoute, dans ce cas-là, j'ai envie de dire que ça signe la fin de ce 13e épisode de
Mais
Carrément
absolument.
Méchant. On vous remercie évidemment de l'avoir écouté du début à la fin.
Et on espère qu'il vous a plu.
On vous retrouve dans 3 semaines pour brosser le portrait toujours aussi iconoclaste de l'actualité internationale et de l'actualité suisse, parce que ça nous fait plaisir. À la tête de l'émission, voilà, c'est Émilie.
Oui, c'est moi. Vous pouvez me suivre sur Twitter @eroulet. Et je suis accompagnée du sémantique du brillant Yann Rieder.
@inkshd sur Twitter. Et puis voilà, on vous donne donc rendez-vous dans 3 semaines sur radiokawa.com. Passez un bel été, j'ai envie de dire.
Voilà, absolument. Faites attention au soleil et buvez beaucoup d'eau. Voilà, on ne vous l'a certainement pas assez dit cet été.
Buvez du soleil et mettez-vous sous l'eau. Ciao!
Bisous! This is ground control to Major Tom.